Le journal.
Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Un an après sa première élection, le Brexit et une motion de défiance de son parti, le rebelle solitaire Jeremy Corbyn est finalement plébiscité à la tête du Labour britannique. Nous irons à Liverpool, Antoine Gignot a assisté à cette élection, puis nous verrons quelles conséquences pour les prochains scrutins avec la spécialiste Sophie Loussouarne. Alep, toujours sous les bombes du régime, plus de 70 civils ont été tués depuis vendredi. Les destructions sont sans précédent alors que se prépare une offensive terrestre. Laure Stéphan nous appellera depuis Beyrouth. Enfin, nous irons à Tours où François Hollande a défendu le démantèlement de la jungle de Calais ce matin, puis à Lyon où l'ancien ministre Emmanuel Macron répond à ceux qui ont annulé leur présence au sommet des réformistes européens. Jeremy Corbyn a donc été réélu à la tête du parti travailliste britannique ce midi à Liverpool. Le militant anti-austérité l'a largement emporté face à son adversaire Owen Smith, soutenu par la majorité des parlementaires travaillistes. Succès qui devrait se traduire par une inflexion à gauche des orientations du plus grand parti d'Europe, profondément divisé depuis le Brexit. À Londres, la correspondance d'Antoine Gignot.
C'est un vrai plébiscite, presque 62% des voix, des salves d'applaudissements. Et les premiers mots de Jeremy Corbyn sont pour les militants. Ce sont eux qui se sont massivement inscrits sur les listes du parti ces derniers mois. Eux aussi qui ont voté pour réélire le leader de 67 ans en validant son programme à gauche de la gauche, malgré les réticences des députés. Cet été, les parlementaires travaillistes ont approuvé une motion de défiance vis-à-vis de Jeremy Corbyn avec des démissions massives parmi les cadres du parti qui dénoncent une dérive sectaire trotskiste. Il va maintenant falloir réunir la famille du Labour, explique Corbyn à la tribune, pour s'attaquer au véritable ennemi, le gouvernement conservateur de Theresa May. Et le chef de file de ce qui est désormais le plus grand parti d'Europe fustige l'austérité, met en avant les 6 millions d'ouvriers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il appelle dès la semaine prochaine à manifester pour défendre l'école publique. Un sujet peu polémique, qui ne suffira peut-être pas à réconcilier tous les représentants de la gauche, mais qui pourrait temporairement éviter une explosion du parti.
L'élection de Jeremy Corbyn à la tête du parti permettra-t-elle aux travaillistes de remporter les élections législatives de 2020, prochain scrutin d'importance pour le Labour? Sophie Loussouarne estime que cet objectif sera difficile à atteindre pour Jeremy Corbyn. Elle est spécialiste de la vie économique et politique britannique et auteure de Tony Blair, l'Odyssée politique.
Il est confronté à deux défis. Premièrement, il est très impopulaire dans la classe ouvrière. 50% des travailleurs peu qualifiés estiment que Corbyn est un perdant. Et par ailleurs, Jeremy Corbyn n'a pas la confiance des députés à la Chambre des communes. L'ancien candidat à la tête du Parti travailliste, David Miliband, estime que Jeremy Corbyn rend le Parti travailliste inéligible. Parce que finalement, l'homme qui avait rendu le Parti travailliste éligible à 3 reprises, c'était Tony Blair, parce que Tony Blair était un modernisateur, alors qu'aujourd'hui Corbyn, qui a 67 ans, qui est député d'Islington North depuis 1983, apparaît comme une figure du passé. C'est l'ami de Tony Benn, c'est un dogmatique, c'est un homme de l'aile gauche du Parti travailliste. Il a obtenu le soutien des travaillistes dans le nord de l'Angleterre, dans les Midlands, au Pays de Galles et dans le sud, alors que son adversaire, Owen Smith, a rallié les travaillistes écossais et londoniens à 58%. Et Owen Smith aurait été un modernisateur à même de réformer le Parti travailliste pour le faire gagner aux prochaines élections de 2020.
Des propos recueillis par Claire Denestour. En Syrie, les forces du régime intensifient leur offensive contre l'est d'Alep, la partie de la ville tenue par les insurgés. Depuis hier, les bombardements sans répit ont fait plusieurs dizaines de morts. Pour les habitants et militants de la zone rebelle, ces raids aériens sont d'une violence inédite. Laure Stéphan nous appelle depuis Beyrouth.
Soumise à un déluge de feu, la plupart des habitants de l'est d'Alep se terrent chez eux. Les raids aériens menés par le régime syrien et son allié russe, qui se sont intensifiés depuis jeudi, sont d'une violence inouïe. Il n'y a aucun lieu sûr à Alep. Les roquettes et les missiles qui déferlent sur les quartiers insurgés réduisent des immeubles en des monticules de gravats. Selon les secouristes débordés, de nombreuses victimes se trouvent sous les décombres et il est impossible de les approcher. Dans les hôpitaux, ce sont les mêmes scènes d'horreur que racontent les activistes des médias. Les blessés sont sont trop nombreux pour être secourus et le matériel médical est totalement insuffisant. Selon un médecin, les soignants sont contraints d'amputer des blessés pour espérer les sauver. L'Est d'Alep a déjà subi de nombreuses frappes au bombaril et d'intenses campagnes de bombardement. Mais ces jours-ci, le déchaînement de violence est sans précédent. Des armes encore plus puissantes seraient utilisées selon des activistes. C'est ce qui expliquerait le niveau de destruction. Ces attaques féroces se déroulent alors que les réactions internationales sont faibles ou inexistantes. Pour les forces pro-régime, l'offensive en cours pourrait être le prélude à une opération terrestre. Dans les faits, l'étau se resserre autour de l'est d'Alep, déjà assiégé. L'armée et ses alliés ont repris aux insurgés la position d'Andarat, au nord de la grande ville.
Au Gabon, l'opposant Jean Ping vient de réagir à la validation de la réélection du président Ali Bongo par la Cour constitutionnelle. Dans la presse, il estime qu'il s'agit d'un déni de droit. Le pape François invite au dialogue entre les religions. C'est le message transmis aux victimes des attentats de Nice reçus en audience ce matin au Vatican. 58 familles ont rencontré le pape François. Dans l'assemblée, il y avait les proches de Fatima Chari, la première victime de l'attentat au camion le 14 juillet dernier. Son fils Ali témoigne après avoir été salué par le pape.
C'est un message de paix et d'amour. Voilà, je savais que le pape il était comme ça et là maintenant j'en ai la confirmation que vraiment ce pape est un homme de paix. Ça nous a fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul et que le leader de la religion catholique est avec nous, est solidaire. Et ce message de respect et d'amour, ça nous a fait du bien. Donc il n'y a qu'en étant unis ensemble, les trois religions monothéistes, juifs, chrétiens, musulmans, qu'on pourra vaincre tous ces extrêmes, quels que soient.
Vous rendez hommage à une victime en particulier,
hein. Ma mère, qui est la première victime de cet horrible attentat. Elle aurait voulu qu'on soit là. Parce qu'elle a toujours été une dame de paix. Elle a toujours ouvert sa porte à qui que ce soit qui venait à la maison. Donc elle aurait voulu que je sois là.
Des propos recueillis par David Di Giacomo de France Bleu Azur. Des milliers de personnes ont défilé à Belfort cet après-midi pour tenter de sauver le site historique Alstom. Ils étaient 5000 selon la mairie, 3500 selon la police. La majorité des commerces ont aussi symboliquement baissé le rideau au début de l'après-midi. 400 emplois sont menacés après l'annonce début septembre du transfert de la production de trains en Alsace à partir de 2018. C'est la deuxième mobilisation d'ampleur après celle du 15 septembre à Belfort. La France ne sera pas un pays de campement après le démantèlement de la jungle de Calais. François Hollande, qui est attendu lundi dans la sous-préfecture du Pas-de-Calais, a répondu aux critiques de la droite ce matin. Le chef de l'État était à Tours où il a visité un centre d'accueil et d'orientation pour des réfugiés jusqu'ici bloqués à Calais. Mathieu Mondoloni, vous avez suivi le chef de l'État.
François Hollande est venu voir à Tours ce qu'il ne verra pas à Calais, les réfugiés. Ils sont 48 dans le centre d'accueil et d'orientation qu'a visité le chef de l'État ce matin pendant une grosse demi-heure. 48 venus de la jungle et logés ici en attente du traitement de leur demande d'asile dans des conditions bien meilleures, a répété François Hollande.
J'ai discuté avec ces réfugiés. Ils m'ont tous dit que c'était bien préférable. C'était même pas d'ailleurs comparable avec ce qu'ils avaient pu vivre à Calais, dans cette lande, dans ce camp.
Il faudra accueillir les 9000 réfugiés de Calais partout en France, a répété François Hollande, n'en déplaise à la droite.
La France, c'est pas une France où on trouvera des campements. Ça a été depuis trop longtemps une solution de facilité, qui d'ailleurs a été engagée il y a bien des années, avec aussi négociations d'accords qui aujourd'hui sont remises en cause, mais qui ont été signés par les mêmes qui aujourd'hui voudraient les contester. Il y a des règles qui doivent être respectées, mais on ne démantèle pas un camp sans qu'il y ait des solutions.
Une réponse à Laurent Wauquiez, à l'origine d'une pétition et qui brandit le spectre de mini-Calais dans les régions. Il n'y en aura pas, a réaffirmé François Hollande.
Emmanuel Macron a conclu le sommet des réformistes européens cet après-midi à Lyon, événement prévu depuis plusieurs mois mais qui a pris des allures de réunion de soutien depuis son éventuelle candidature à la présidentielle. Alors que le Parti socialiste tente d'isoler l'ancien ministre avec de nombreux absents cet après-midi, comme le commissaire européen Pierre Moscovici, Emmanuel Macron a répondu.
Que celles et ceux qui ne sont pas là s'interrogent sur leur propre démarche. Je crois que beaucoup n'ont pas pu d'ailleurs pour des raisons d'agenda. Si d'autres ont préféré ne pas venir exprimer leur vue, c'est peut-être qu'ils n'en avaient plus. Et donc ça n'est pas grave, nous on continue à en avoir. Mais chacun après est responsable. Je pense que, vous savez, la vie politique est faite d'accords, de désaccords. Quand on en est à mettre la pression sur les gens pour qu'ils n'aillent pas exprimer leur voix, c'est quand même qu'on est dans une situation de fébrilité extrême. Et puis c'est qu'on n'a pas beaucoup de tempérament si on cède à la pression. Donc je pense que notre pays, aujourd'hui, a besoin d'idées, de projets et d'audace. Il n'a pas besoin de pression, de peur, de reniement.
Emmanuel Macron avec Maurice Fusier. L'ancien ministre n'a toujours pas dit s'il serait candidat à la présidentielle. La météo de votre dimanche, une perturbation pluvieuse va traverser le pays d'ouest en est. Le temps restera néanmoins bien ensoleillé et encore chaud entre la Corse, la Provence et l'Alsace. Mais le ciel se couvrira légèrement en fin de matinée. Les températures, elles s'échelonneront de 10 à 18 à votre réveil.